Vous êtes bien sur Radio Barthas.
Le parc national des Cévennes fête ses 50 ans.
Trois plateaux exceptionnels
en direct sur le 107 FM. Ah, c'est cool quoi, on l'a dit en même temps, je crois. Hein.
C'est ça.
Génial. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barta. Si vous nous rejoignez, voilà le troisième plateau avec une jolie surprise. Ça arrive, c'est comme ça, c'est les années du direct. Et voilà, les 50 ans du Parc National des Cévennes, c'est notre troisième plateau. Le respect des aînés est une marque de caractère et nous sommes avec des anciens du Parc National des Cévennes. Ils y ont bossé. Bernard, bonjour.
Bonjour.
Michel, bonjour.
Bonjour.
Est avec nous en plateau aussi. Tu as géré toute cette journée en nous amenant des invités extraordinaires et tous plus surprenants les uns que les autres. Natacha, t'es avec nous, bonjour.
Bonjour.
Tu es chargée de com, toi, et chargée de mission de com.
Chargée de com, ça, on va dire comme ça.
Au Parc National des Cévennes. Tu viens d'arriver avec nous. Rémi, bonjour.
Bonjour.
Je m'attendais pas à ça, mais c'est génial. Et bienvenue. Vous êtes des anciens du parc. Alors, Bernard, on va commencer par toi. Donc ton rôle dans le parc, en quelle année, quand, comment, quoi?
Eh bien, disons que j'ai commencé à la mission d'études pour la création du parc en 1969. À ce moment-là, nous étions à Mende, puisque la mission d'études était rattachée à la préfecture de la Lozère et la DDAF de la Lozère. Et nous sommes restés à Mende. La mission a commencé en 67. Moi, j'y suis arrivé en 69. Et à partir de janvier 71, le parc a été créé en 70. Et le premier conseil d'administration s'est déroulé ici, à côté de là où nous sommes, à Supagro. C'était sous la présidence du ministre de l'Agriculture, Jacques Duhamel, puisque le ministère de l'Environnement n'existait pas. Et ça, c'était en décembre, donc, 70. Et l'équipe de la mission s'est déplacée à Florac début janvier 71.
Quelle aventure depuis, non?
Ah ben oui, bien sûr.
On va y revenir. Michel, merci d'être avec nous. Toi, tu faisais quoi dans le parc? Quand ça a commencé pour toi, cette aventure?
Et moi, je suis arrivée quelques années après la création du parc, en 1976. J'ai été recrutée par un conseiller culturel qui était un homme de théâtre, il s'appelait Jean Rouvet, compagnon du Théâtre National Populaire Jean Villard, et qui avait comme devise que la culture, c'était l'élitisme pour tous. Ouh. Et qu'il ne fallait pas rapporter dans le milieu rural des animations culturelles faites sur mesure pour les capacités intellectuelles supposément peut-être pas tout à fait développées des habitants de la campagne, mais qu'ils étaient parfaitement capables d'entendre des sonates de Bach ou des poitoirs à cordes, et qu'il suffisait simplement de le transporter jusqu'à proximité des lieux où ils habitaient, dans des endroits souvent désaffectés, faute de population et d'entretien, que étaient les petits temples et églises qui, à l'époque, étaient plus ou moins en déshérence.
Natacha, ça te parle? Parce qu'aujourd'hui, il y a un partenariat aussi avec les Seines Croisées, ce genre de choses. Le Parc National et la Culture, c'est une grande histoire.
Ben oui, mais à l'origine, le parc devait être aussi culturel. Et le parc est habité, donc forcément, il y a un lien.
C'est clair. Rémi, tu nous as rejoint à la dernière minute. J'adore, j'aime beaucoup. Rémi, qui es-tu? D'où viens-tu? Et qu'as-tu fait au parc?
J'ai été recruté en 1983, là, sous la présidence du docteur Michel Bonneau, où le conseil d'administration, à l'époque, avait estimé que le parc avait besoin de communiquer. Il avait créé un gros service découverte et communication qui regroupait 14 personnes à l'époque. Bon. Et le directeur de l'époque, M. Roland Béguet, m'avait donné trois missions. Premièrement, essayer de faire monter la mayonnaise entre ces 14 personnes qui étaient éparpillées un peu dans différentes unités du parc, mais toutes à différentes échelles chargées de faire valoir le parc. Donc ça regroupait grosso modo tout le secteur édition dont s'occupait déjà brillamment Michel Sabatier, ici présente. Tout le côté relations avec les écoles, le côté l'aménagement du terrain, on va dire de découverte, les sentiers d'interprétation, etc. Les relations avec les offices de tourisme, centres d'interprétation et d'information du parc. les activités de plein air, sportives entre autres, mais pas que. Et puis toute l'animation culturelle du parc, qui avait disparu avec la dissolution du CAC, du Centre d'animation culturelle, que la Cour des comptes avait fusillé de ses foudres, qu'il s'agissait de redéployer sous différentes formes en prise directe avec le parc pour valoriser cette animation d'hiver et estivale en particulier. La deuxième mission qui m'avait été donnée, c'est quelque part de faire rentrer des ressources propres au parc déjà. On a commencé à prévoir que les ressources allaient être de plus en plus difficiles en termes budgétaires. Et la troisième mission, c'était de faire connaître le parc, de valoriser l'image du parc. Tout d'abord localement, auprès de la population du parc national des Cévennes, parc national habité, et il connaît de faire passer nos valeurs aussi auprès du plus large public. Le faire connaître aussi nationalement. À l'époque, nous étions le seul parc national habité. On était le petit canard dans la couvée de Poussin. On nous regardait avec des grands yeux. On nous traitait de parc régional parce qu'on était un parc habité. Bon. Et puis, faire connaître notre modèle aussi à l'échelle internationale, ce dont je me suis employé au cours des années qui ont suivi.
Ce qui est devenu un modèle par rapport à l'habité, parce qu'aujourd'hui, il y a la Guyane aussi. Anne Legille était venue nous en parler et nous disait « Nous ne sommes plus le seul parc national habité. »
Oui, oui, avec la Réunion, la Guyane aujourd'hui, en particulier, oui.
Justement, on reviendra là-dessus sur un peu la communication et sur l'image qu'a aujourd'hui le parc national des Cévennes. Bernard, toi qui étais... quasiment au début de l'aventure, est-ce que tu pensais que ce parc national des Cévennes, 50 ans plus tard, allait devenir ce qu'il est aujourd'hui ?
Eh bien, évidemment non, mais ça a été souligné avant que ce soit un parc national. Le vœu en Lozère, c'était que ce soit un parc naturel et culturel. Donc c'est devenu national par la force des choses, parce que la loi de 60, puis les premiers parcs nationaux, c'était un parc national. Non, c'est évident qu'on ne pouvait pas imaginer l'aventure complète du parc, ça c'est certain.
Quelle est la chose dont tu serais le plus fier que tu aies faite en fait, pendant ta carrière ?
Ben, disons que ça a été de œuvrer à la protection de la nature pour les Cévennes, qui sont mon berceau. Je suis né dans les Cévennes, donc... je trouve que c'est une belle aventure qui a permis d'œuvrer pour les paysages et la biodiversité sur les Cévennes. Il faut que ça continue.
Michel, je te poserai un peu la même question. Toi, est-ce que tu as un souvenir comme ça qui te marque et qui te reste en mémoire ?
Oui, c'est un souvenir un peu général. J'ai eu l'impression, dans les premières années surtout, qu'on avait tout inventé. Et c'est un sentiment absolument génial, puisqu'on n'avait pas d'anciens à saluer ni à respecter. Non, il fallait tout créer le métier de garde-moniteur, créer le métier de chargé de communication, créer le parc national et inventer le territoire au sens de le découvrir, de prendre contact avec toutes ces différentes dimensions et qui étaient tellement riches et aussi bien humainement que naturellement que c'était sans arrêt du renouveau, sans arrêt de la stimulation aller davantage de l'avant.
Rémi, est-ce que tu as quelque chose aussi dont tu te sens fier vraiment toutes ces années après, finalement ?
Oui, avec le recul du temps, effectivement, c'est que l'expérience acquise par le parc national des Cévennes en matière de co-gestion d'un territoire avec les représentants des populations locales, ce modèle, finalement, a beaucoup intéressé. Très rapidement, elle a été reconnue réserve mondiale de biosphère aussi, donc ça a beaucoup aidé. Et lorsqu'il a fallu réformer la loi des parcs nationaux, à l'époque du député Girand, les responsables de la com des parcs se sont dit « mais en fait, le parc des Cévennes, c'est peut-être une solution pour avancer ». Faire en sorte que ce modèle de parc national, qui implique plus les populations d'un territoire sur la gestion de ce territoire en matière de conservation de la biodiversité, que ce modèle soit étendu aux autres parcs. Et c'est en 2006 donc, qu'est apparue la loi Girand qui à proposer une autre forme de gouvernance pour les parcs nationaux, un peu à l'image de ce que nous avons toujours souhaité faire au parc national des Cévennes. Alors, Par ailleurs, ce modèle a été aussi repris à l'échelle internationale et j'ai été appelé à intervenir sur différents chantiers, que ce soit en Europe ou en Afrique, pour en parler et puis avancer en collaboration avec nos collègues internationaux.
Aujourd'hui, vous avez tous fermé cette parenthèse du parc, quoique vous êtes encore dedans et on sent dans votre voix que c'est avec passion que vous le vivez. C'est l'occasion pour vous aujourd'hui peut-être de rencontrer des gens qui travaillent et qui font finalement ce que vous avez fait pendant tant d'années. Par exemple, Bernard, est-ce que tu as pu échanger avec des gens qui ont repris le flambeau et aujourd'hui qui travaillent pour le parc national? Comment ça se passe, ces échanges?
À ce niveau-là, quand j'ai quitté le parc national des Cévennes en 1996, j'ai œuvré pour la formation initiale des agents de terrain des parcs nationaux. Donc j'ai été avec le ministère de l'écologie à la formation pour environ, de 1996 à 2015, environ 200 agents de terrain. Donc les agents du parc national des Cévennes, je les ai connus, j'en connais, même les nouveaux, je les connais très bien, oui. Donc je connais leurs espoirs, leurs certitudes sur la protection de la nature. Donc il faut composer avec, je dirais, une vision un peu urbaine des choses et la vision rurale. Et ce qui n'est pas simple aujourd'hui. Voilà. Parce que, par exemple, quand on parle du loup, le loup n'a jamais été lâché par le parc national des Cévennes. Donc on ne comprend pas que les agriculteurs puissent être aussi remontés contre le parc, alors que le parc ne fait qu'à suivre une gestion, et les loups étaient là avant les hommes. Et donc moi j'ai rencontré, je fais de la randonnée à cheval dans les Cévennes, j'ai rencontré des bergers avec leurs troupeaux, et il y a des endroits, par exemple à Canjuers, dans le Var, les loups sont encore beaucoup plus néfastes que ceux qui sont dans les Cévennes. Et ces bergers qui sont jeunes m'ont dit, il faudra apprendre à conduire le troupeau, à veiller sur le troupeau, et on ne voit pas comment on pourra se passer de faire avec le loup. Voilà. Donc pour eux, ça fait partie du paysage naturel. Voilà. Et ça, ça ne plaît pas à tout le monde.
N'hésitez pas
pour continuer.
Oui, évidemment.
À ce soir, j'ai discuté avec une mamie du Mont-Lozère, là, quand j'étais par là-haut. Ouais. À propos du loup, elle me disait « Oh, pas de problème, le loup. » Quand j'étais gamine, je gardais les troupeaux, bien sûr. Et puis, quand il y avait le loup qui sortait du bois, je tapais avec les sabots, tac, 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 et puis le loup, il partait. Bon, à l'époque, les troupeaux étaient gardés. Ouais.
J'ai eu la chance de rencontrer une Slovène qui est passée ici à la radio et qui me disait qu'en Slovénie, les troupeaux étaient beaucoup plus petits. Au lieu d'avoir 1000 ou 2000 têtes, ils avaient 50 têtes maximum, ce qui permettait une surveillance. C'est peut-être des choses auxquelles et une repratique à imaginer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bernard.
Oui, moi la personne que j'ai vue, c'était un couple qui était au col de Salides et ils avaient à peu près 1500 moutons. Ils en avaient même 1500 à Canjuers pendant l'hiver où les loups posaient des problèmes. Eh bien, ils estimaient qu'avec des chiens et en étant présents sur le troupeau, il y avait moyen de se préserver. Ce n'est pas dit qu'il n'y ait pas de problème. Mais est-ce que les maladies n'emportent pas plus de moutons que le loup? Il faudrait faire le bilan. Donc, il faut être objectif dans cette histoire-là. C'est pas mais seulement, c'est un peu politique dans le sens où on critique, il faut un bouc émissaire. Voilà.
Les maladies et les chiens errants.
J'adore l'idée parce que je n'avais jamais parlé du loup sur cette antenne. Voilà qui est fait. Et si on reparle de partage, Michel, toi, c'est pareil. Dans la relation aujourd'hui ou que tu as eue quand tu as fermé la parenthèse du parc, comment ça s'est passé avec, entre guillemets, tes successeurs ou successeuses?
En fait, j'ai travaillé dans le même organisme que Bernard, donc qui s'appelait l'Atelier technique des espaces naturels, et qui avait pour mission de mettre en relation précisément tous les gestionnaires d'espaces naturels, quels qu'ils soient, ceux des parcs nationaux, mais aussi ceux des parcs régionaux, des réserves naturelles, du conservatoire du littoral. Donc en fait, quand j'ai quitté le parc national, mon expérience s'est élargie au-delà de la seule préoccupation des parcs nationaux. Et ça m'a permis de découvrir qu'il n'y avait pas qu'une seule manière de gérer un territoire sur le plan de la protection de la nature, qu'il y avait beaucoup d'approches différentes qui toutes avaient leur qualité, leur efficacité et leurs limites. Donc j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Et j'ai beaucoup apprécié de voir que les parcs naturels régionaux, bien que n'ayant pas un label prestigieux sur le plan avec le mot national dans leur intitulé, étaient capables aussi, avec une approche beaucoup plus de concertation territoriale, de mener à bien des projets remarquables à tous égards. Donc ça m'a permis de relativiser le côté, entre guillemets, exceptionnel du parc national.
Rémi, je vous pose la question à tous les trois, évidemment. Est-ce que, je dirais, vous êtes content de ce qui est devenu le parc national des Cévennes aujourd'hui, Rémi?
Le parc national des Cévennes aujourd'hui, effectivement, a gardé cette image de parc national un peu pilote en matière d'association des différents acteurs du territoire à sa réflexion et à la politique de gestion. Bon, là, quand on s'aime bien, des fois on se dispute, hein, ça c'est normal. Mais au moins on travaille ensemble, on avance. Et puis, moi je ne crois pas aux grandes politiques qui décident de tout d'en haut. C'est la politique des petits pas sur le terrain au fur et à mesure. On les cherche à convaincre les uns les autres, expliquer pourquoi, faire comprendre les enjeux de gestion qui peuvent exister par rapport aux générations futures, etc. C'est tout ce